Alors bonjour, bienvenue à tous et à toutes. On a voulu vous proposer pour cette séance en éthique et environnement, un environnement très chaleureux, comme vous pouvez le constater. Alors on va juste vous demander de ne pas trop vous lever brusquement ni tout d'un coup pour éviter que le plafond, que le plancher s'effondre et se retrouve à l'étage 2 ou 3, on verra. Donc je vous explique rapidement la logistique pour la séance. Nous allons la diviser en deux parties. La première partie sera consacrée à une allocution, conférence de M. Pierre-Olivier Pinault. Pendant 25-30 minutes, il y aura une période d'échange avec vous juste avant la table ronde. Donc on a une table ronde qui s'élargit au fur et à mesure que les chaises se collent à cette partie de la salle. Mais je vais clarifier les choses, la table ronde termine là. Donc je vous présenterai les participants de cette table ronde qui auront encore deux rondes pour présenter leur point de vue juste avant d'ouvrir la discussion avec toutes les personnes présentes aujourd'hui. Alors sans plus tarder, je vous présente rapidement Pierre-Olivier Pinault, donc professeur ici à l'École des hautes études commerciales. Il enseigne les méthodes quantitatives de gestion. Il est surtout spécialiste des politiques énergétiques, surtout en ce qui a trait à l'énergie électrique, à l'électricité et aux problèmes de consommation aussi, avec une expérience et une expertise développée dans trois continents. Donc, une chose que vous pouvez déjà aussi observer dans cette séance, qui est la première des séances consacrées aux différents axes du Centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal, et la diversité facultaire, la polyvalence, la grande diversité en disciplines à travers lesquelles on aborde, on traite les problèmes qui sont propres à chacun de ces axes-là. Alors j'ai oublié de me présenter, Juan Torres, je suis coordinateur de l'axe éthique et environnement et je vous laisse pour 25-30 minutes avec M. Pinault.
Merci beaucoup. Alors merci avant tout au CREAM de m'avoir invité. Là, c'est un honneur pour moi qui, je ne sais pas jusqu'à quel point il est mérité d'être ici, pour moi d'être ici. Comme le disait Juan, j'ai une maîtrise en philosophie, donc j'ai un point de rattachement au département de philosophie qui date de quelques années quand même. Mais actuellement, je me présente comme un spécialiste en politique énergétique. Je m'intéresse vraiment aux questions énergétiques, plus spécialement l'électricité, mais ça déborde parce qu'évidemment, toutes les énergies convergent. Et deviennent de plus en plus reliées les unes aux autres. Et évidemment, les aspects environnementaux ne peuvent pas être dissociés des aspects énergétiques. Alors, je m'intéresse beaucoup aux aspects environnementaux, essentiellement sous l'angle de la consommation. Je vais commencer par une anecdote aussi, puisque ce matin, il y a eu plusieurs anecdotes, mais je vais essayer d'être bref et d'aller à ma conférence. Ce matin, Daniel Weinstock nous a proposé sa nouvelle, où il disait, pour confiner les gens qui auraient des pensées critiques à un espace où ils pourraient parler librement sans avoir d'impact à l'université, sans avoir d'impact dans la société, on a créé le système universitaire actuel où les universitaires peuvent parler librement avec tout l'esprit critique dont ils souhaitent faire l'exercice, mais sans avoir d'impact dans l'université. Il arrive que de temps en temps, des voix se font entendre en dehors de l'université et pour différentes raisons, en fait, qui je crois ont lien au fait que les questions énergétiques sont très prenantes dans notre société, mais qu'il y a un manque d'expertise. Les médias font souvent appel à moi et à parmi d'autres en énergie pour commenter les questions énergétiques. Donc effectivement, ma voix sort parfois du cadre universitaire pour aller dans le débat public ou sur et ça m'a donné au moins dans l'industrie énergétique une certaine notoriété, ce qui fait que, je ne sais pas si c'est donc là pour la nouvelle de Daniel Weinstock, quand un professeur sort trop du cadre universitaire et commence à avoir une influence, une manière pour le monde réel de le rattraper et de le raccorder, c'est de commencer à lui donner de l'argent. Et donc finalement d'acheter ce professeur pour essayer de contenir sa voix. Et c'est peut-être ce qui va commencer à m'arriver personnellement, puisque jusqu'à maintenant, j'ai reçu de l'argent de l'industrie de l'énergie, mais ça pourrait prendre des proportions beaucoup plus grande dans les années à venir à travers une chaire de recherche auquel le CREAM serait associé si le plan se réalise, et il y aurait des entreprises comme Gaz Métropolitain, il y aurait même Petrolia qui veut produire du pétrole au Québec qui pourrait être membre de cette chaire-là. Et donc, je suis confronté à, un certain dilemme de se dire, mais ça me donnerait des moyens assez exceptionnels pour faire des recherches, engager des étudiants, mais jusqu'à quel point est-ce que ça me salirait les mains de pétrole, de gaz naturel, mais aussi, bon, il y aurait Boralex qui serait potentiellement intéressé, Boralex qui est uniquement dans les énergies renouvelables. Je sais à quel point ça me salirait les mains, donc c'est un défi éthique auquel ma conjointe ne cesse de me mettre, de me confronter. J'ai confiance en moi-même, mais évidemment, est-ce qu'on peut avoir entièrement confiance en soi-même, c'est une question. Et donc, si vous voulez m'aider dans ce débat-là, et c'est en fait c'est aussi une condition à ma présence ici, c'est que je suis en congé de paternité. Ma conjointe m'a dit, oui, tu peux venir si tu arrives à avoir des conseils d'éthiciens patentés sur comment te comporter face à l'industrie qui régulièrement, au cours des dernières années, m'a invité à des restaurants. J'ai pas été sur de yacht ou j'ai pas été
accès
de... Ah, si je vous invite au restaurant où la semaine dernière j'ai parlé au congrès de l'association pétrolière et gazière du Québec où Lucien Bouchard, si vous avez suivi un peu les médias la semaine dernière, Lucien Bouchard était dans les médias, mais c'était à l'occasion du congrès de l'association pétrolière et gazière du Québec. J'ai fait un discours là pour lequel j'ai même été payé. Donc est-ce que c'est acceptable d'accepter cet argent là? Je ne me pose pas trop la question parce que la vérité, c'est que je dis ce que je veux dire. Je dis qu'il faut des contraintes sur les gaz à effet de serre. Je dis que nous consommons trop d'énergie dans notre société, qu'il faut réduire notre consommation d'énergie et surtout de pétrole, que le gaz naturel, c'est différent. Donc, j'ai tout un discours qui, a priori, je crois personnellement, pourrait rentrer en conflit avec les intérêts de l'industrie, mais pour des raisons que je comprends souvent, mais qui parfois ne sont pas directes. L'industrie m'aime bien aussi et semble être prête à mettre un peu d'argent sur mon cas universitaire, donc à me salir un peu les mains, mais à un sens, comme ce matin, il y en a certains qui ont posé la question au niveau de se salir les mains de différentes manières, mais je me salis les mains en parlant d'objets réels dans les débats de notre société, mais aussi peut-être en recevant de l'argent qui ne sera pas dédié directement à moi, mais qui ira vraiment aux étudiants. Donc si vous avez des conseils, des suggestions, n'hésitez pas à un moment donné à me les transmettre, ça va me permettre de définir le cadre déontologique dans lequel je vais pouvoir éventuellement opérer dès maintenant, ou si ça prend de l'ampleur, mon financement dans ce cadre-là. Donc j'arrive à mon sujet plus précis qui est donc l'avenir de l'éthique en environnement. La perspective, je vais essayer de donner une perspective globale. Ma perspective globale, c'est que nous pouvons, au sein de l'ensemble des valeurs de nos sociétés, répondre aux défis, aux problèmes, aux enjeux environnementaux qu'on a. Évidemment, on pourrait avoir d'autres ensembles de valeurs, d'autres ensembles de conceptions du monde qui nous permettraient de régler ces problèmes-là. Mais moi, j'œuvre sur la prémisse et la conviction que dans le cadre actuel de notre société, nous avons les outils et on n'a pas besoin de réformer nos valeurs pour arriver à résoudre les problèmes environnementaux auxquels nous faisons face. Évidemment, il y a des obstacles à ça, des obstacles d'information, de communication et d'institution. Et en gros, je vais argumenter que le défi de l'éthique environnementale dans les années à venir, c'est vraiment un défi d'informer et de contribuer à bâtir des institutions qui nous permettent de changer nos habitudes de vie, parce qu'on est vraiment au niveau des habitudes de vie, plus qu'au niveau la problématique se situe plus au niveau des habitudes de vie que des valeurs propres, et que l'éthique peut jouer un rôle et devrait jouer un rôle, à mon sens, d'informer et d'aider à construire des institutions qui nous permettent de répondre aux défis qui, dans ma perspective, nous rendrait en fait plus riches et plus heureux. Donc souvent on associe les défis environnementaux à des changements d'habitude de vie qui nous contraindraient et qui seraient problématiques. Mais moi j'ai mon constat d'après mes recherches, c'est qu'il y a tellement de choses qu'on fait tellement mal que, en fait, si on les faisait mieux, on pourrait faire plus. Donc la foi, c'est un peu galvaudé cette idée de faire plus avec moins, mais je vais vous essayer d'argumenter un petit peu à ce niveau-là. J'aimerais commencer avant tout par les problèmes environnementaux, parce que je pense que si on a des questionnements éthiques en environnement, c'est parce qu'on a des problèmes, on a des enjeux. En environnement, je pense que les enjeux éthiques sont très différents, de nature très différente que dans d'autres secteurs. Par exemple, on a parlé ce matin des problèmes du suicide assisté, mais quand on parle des problèmes éthiques en suicide assisté, on a clairement une personne qui veut mourir et on a des personnes aux alentours qui directement peuvent entrer dans la chaîne causale et procéder au suicide. Dans la même chose, quand on parle de corruption en finance, ben, on a une personne qui peut commettre un délit d'initié qui va directement profiter personnellement d'un détournement de fonds ou d'une situation particulière qui lui permet. En environnement, la chaîne causale entre ce qui relie chaque individu des individus et le problème environnemental est beaucoup plus complexe, elle est beaucoup moins directe que dans beaucoup de problématiques. Encore une fois, je ne suis pas un éthicien, alors je n'ai pas vraiment une pensée très profonde sur la nature de tous les problèmes éthiques, alors je n'ai pas une prétention à bien caractériser tous les problèmes éthiques, mais en environnement, je pense qu'on peut avoir un consensus sur le fait que on a un ensemble d'acteurs qui ont une influence assez indirecte sur les problèmes. Et il faut bien comprendre ces problèmes-là. À mon avis, la compréhension des problèmes est au cœur des dilemmes éthiques en environnement. Parce que si on ne comprend pas ces problèmes, trop souvent, l'éthique environnementale va, dans l'imagerie populaire, va consister à recycler, à planter un arbre, à mettre son déchet dans la poubelle, qui sont évidemment des bons gestes que j'encourage, mais qui n'ont rien à voir avec les problèmes environnementaux concrets qu'on a, et que je vais brièvement mentionner. C'est pas ma catégorisation, mais une catégorisation que les Nations Unies utilisent, par exemple, pour présenter les problèmes l'état de la planète, et qui vient de différents chercheurs en environnement sur les problèmes. Alors je fais une petite liste, il y a 9 grands types d'enjeux environnementaux. Les changements climatiques, qui est une conséquence des émissions de gaz à effet de serre de sources anthropogéniques, les perturbations des cycles biogéochimiques, donc là on a tout l'azote qui est libéré à travers les engrais agricoles qui sont lessivés dans les eaux et qui arrivent dans les cours d'eau, qui arrivent aux océans, donc ça perturbe les écosystèmes souvent marins. C'est au Québec, ça a été il y a quelques années les algues bleues, on entendait souvent parler des algues bleues, donc on a souvent ces problèmes géochimiques, donc c'est essentiellement lié à l'azote lié aux engrais agricoles qui ultimement se déversent dans des cours d'eau. Ça, c'est un deuxième grand problème environnemental que les Nations Unies montrent. La destruction de la biodiversité, l'amincissement de la couche d'ozone, l'acidification des océans, qui est un problème majeur dont on parle très peu, mais qui est une conséquence directe de l'augmentation du CO2, de la concentration de CO2 dans l'atmosphère, qui fait en sorte que le pH, donc l'acidité des océans, change, et ça va ultimement affecter plusieurs organismes marins, et toute la chaîne alimentaire marine va être affectée par ça, à cause des émissions de CO2, encore une fois, qui sont liées aux émissions humaines sur Terre. La diminution des réserves d'eau douce, les changements d'affectation des sols, l'accumulation d'aérosols dans l'atmosphère, la pollution chimique. Donc là, je vous ai listé 9, une liste, je ne suis pas du tout un expert de ces 9 domaines-là, mais quand on regarde encore une fois ces 9 enjeux environnementaux-là, il n'y en a à peu près aucun pour lequel il y a un groupe d'intérêts qui a un intérêt direct à détruire ou à provoquer ces problèmes-là. Contrairement à un enjeu financier ou un problème éthique en finance où quelqu'un a un intérêt direct à détourner de l'argent pour le mettre dans sa poche, dans ces problèmes environnementaux-là, personne n'agit en ayant comme objectif de créer ce problème-là. Ces problèmes-là, à part dans certains cas, si on pense aux réserves d'eau douce, on pourrait dire, comme il y a beaucoup d'eau douce au Canada, on a un intérêt stratégique à créer des problèmes d'eau douce mondialement pour en profiter. Donc il peut y avoir évidemment quelques conflits d'intérêts, voilà, quelques convergences d'intérêts pour donner à certains individus un intérêt à la dégradation de l'environnement. Mais d'une manière générale, quand on émet des gaz à effet de serre, c'est une conséquence indirecte du fait dont on ne bénéficie pas, ou parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de nous déplacer d'un point A à un point B. Alors, on a décidé inconsciemment dans notre société d'avoir des grosses, inconsciemment, plus ou moins inconsciemment, évidemment, quand on fait l'achat d'une grosse voiture, on achète la grosse voiture et on émet beaucoup de gaz à effet de serre pour se rendre du point A au point B, mais on n'a pas de jouissance directe du fait qu'on contribue au changement climatique. Donc, c'est vraiment une conséquence indirecte et... Là, juste pour illustrer mon propos, pour l'utilité personnelle, oui, on en dérive une utilité de se promener dans une grosse voiture. Certaines personnes, du moins, dérivent une grande utilité. Mais la contribution à la société, et même si on regarde d'un point de vue pratico-pratique, pour un individu d'aller dans une petite voiture ou à bicyclette du point A ou point B ou dans un VUS, il n'y a pas une grande différence, à vrai dire, même si vous marchez plus, faites plus de vélo, avoir un transport plus actif, vous aurez un ensemble de bénéfices connexes sur les dépenses que vous allez avoir, donc vous aurez plus d'argent dans votre portefeuille que si vous avez une grosse voiture, vous allez avoir un mode de vie plus actif, vous allez donc avoir des bénéfices sur votre santé. Donc il y a un ensemble de bénéfices qui ne sont pas forcément intégrés dans les choix et qui en fait rendraient les individus dans un état de bien-être supérieur, mais tout en diminuant leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc on a un ensemble de secteurs comme ça où on pourrait imaginer que la conséquence qui ne contribue pas au plaisir direct ou au bien-être direct des individus, cette conséquence peut être amoindrie tout en améliorant le bien-être des individus. Si on reprend le deuxième exemple des azotes, des engrais azotés qui contribuent donc aux algues et au changement des écosystèmes marins, parce qu'il y a donc trop d'azote qui est déversé dans l'eau, mais il semble, et encore une fois c'est certaines lectures certaines études qui le montrent, que c'est la surutilisation d'engrais, notamment en Chine, semble-t-il que les agriculteurs chinois n'ont pas une haute formation dans comment utiliser ces engrais, et utilisent jusqu'à 75% trop d'engrais par rapport à ce que l'engrais peut donner au niveau de la productivité de leur agriculture. Donc si simplement avec une meilleure information, une meilleure éducation, ils pourraient couper dans leur usage des engrais, économiser de l'argent, et ça contribuerait de par le fait même à réduire le problème qui est très bien caractérisé. Et tout le monde ne s'en trouverait que mieux, sauf peut-être quelques corporations qui vendraient moins d'engrais. Alors là encore, on a des problèmes d'institution, on laisse des corporations le faire, mais c'est un problème qui dépasse un petit peu, en tout cas à mon sens, ça dépasse le fait qu'on a des corporations machiavéliques qui poussent pour la vente d'engrais. C'est au-delà de le problème, ne se situe pas qu'au niveau de la corporation de Monsanto par exemple qui vend des engrais, elle se situe aussi au niveau de l'éducation populaire des agriculteurs, du fait que probablement en Amérique latine, une fois j'y étais, je voyais des agriculteurs qui ne parlent pas anglais ouvrir une bonbonne d'engrais et commencer à asperger leur champ, mais ils ne lisent pas l'anglais, alors comment est-ce que vous voulez qu'ils lisent les instructions? En fait, même s'ils savent lire, ils ne savent pas lire l'anglais et ils ne vont pas pouvoir lire les instructions de sécurité simplement pour leur propre sécurité lorsqu'ils font l'épandage d'engrais. Donc on a ce genre d'asymétrie d'information qui fait en sorte qu'on a des problèmes qui, à mon sens, peuvent être résolus dans même notre système de valeurs actuel, et qui demandent de bien comprendre les problèmes. Une grande partie des problèmes que j'ai listés, ils sont en fait caractérisés par un problème qui est appelé en économie la tragédie des biens communs, qui se présente souvent comme un dilemme du prisonnier, où on a un intérêt individuel parfois. Donc j'ai décrit des situations où en fait même l'intérêt individuel n'est pas là, mais parfois on a un intérêt individuel à faire l'action qui a des conséquences négatives, mais collectivement on aurait un intérêt à faire mieux. Un autre exemple très concret actuel en fait qui m'enrage de façon très mineure actuellement, vous avez remarqué que c'est l'automne ces jours-ci et que les feuilles tombent et les gens ramassent leurs feuilles. Et dans quoi les gens mettent-ils leurs feuilles pour les faire collecter? Alors il y a plusieurs stratégies. Soit vous les poussez dans la rue en attendant que la ville de Montréal les déblaie comme la neige en hiver. Vous les mettez dans des contenants et vous attendez que le mercredi matin dans le quartier ici, ils soient ramassés. La ville de Montréal a mis une règle très simple, c'est que les sacs de plastique sont interdits. Et sur le site web de la ville de Montréal, c'est indiqué la collecte des déchets organiques, des déchets résidus verts, qui sont ramassés de manière séparée. Pourquoi? Parce qu'ils vont être compostés plutôt que d'aller dans des dépotoirs où ils seront enfouis et ça amènera des gaz à effet de serre. Quand vous enfouissez des déchets organiques, ultimement ça devient du méthane qui contribue au réchauffement climatique. Donc l'idée c'est de composter ces feuilles plutôt que de les enfouir. Si vous compostez, vous savez, vous ne pouvez pas composter du plastique. Donc si vous mettez vos feuilles dans un sac de plastique et qu'après c'est ramassé, que c'est envoyé, il n'y a pas un tri qui se fait et il n'y a personne qui est payé pour enlever le sac de plastique. Donc la ville de Montréal a décidé en 2012, et c'est inscrit noir sur blanc sur leur site web que j'ai vérifié avant même moi de mettre mes feuilles dans un sac en papier, la ville dit nous ne ramasserons pas les sacs en plastique cette année en 2012, c'est une politique de la ville de Montréal. Évidemment, si vous avez marché dans les rues de Montréal ou si vous-même vous avez ramassé vos feuilles, il y a une forte chance que vous n'ayez pas acheté des sacs en papier à $3.75 pour 5 sacs, mais vous ayez acheté 50 sacs en plastique pour $5 et vous avez mis vos sacs là-dedans, vos feuilles dedans, et que le mercredi matin, contrairement à la politique de la ville de Montréal, la collecte des feuilles se fasse et qu'ils prennent vos sacs en plastique et qu'ils les mettent dans les camions. Si je montre cet exemple-là, c'est pour vous montrer que collectivement, individuellement, tout le monde a intérêt à utiliser le sac en plastique, parce que si vous avez mis des feuilles déjà dans un sac, c'est bien plus facile de le faire dans un sac en plastique parce que c'est plus souple, vous pouvez tasser plus, c'est moins cher, donc vous avez un intérêt individuel à faire ça. Faire l'effort d'acheter un sac en papier, de remplir votre sac en papier qui, s'il pleut, il va se déchirer, vous ne faites pas. Alors individuellement, on a tous intérêt à utiliser le sac en plastique, mais collectivement, si on veut que le compostage se fasse dans des bonnes manières, il faut le faire autrement. Mais nous, personne ne respecte la règle, la ville de Montréal ne respecte pas la règle, et ça, je veux blâmer personne ici, je veux pas blâmer mes voisins que j'ai vu les mettre, et je suis pas moi-même allé leur dire qu'ils avaient pas le droit de le faire, mais c'est pour illustrer le fait que c'est pas un problème de valeur. Je n'accuse pas mes voisins de manquer de valeur environnementale, d'avoir un mauvais système de valeurs qui fait en sorte qu'ils n'ont que leur intérêt personnel. C'est uniquement qu'il y a un manque de cohérence, ils ne comprennent... Il y a un manque de cohérence individuelle, il y a un manque d'incitatif à amener les bonnes actions, un manque d'information, parce qu'en fait, souvent, on ne se pose pas la question où est-ce que vont les feuilles, est-ce qu'elles sont vraiment compostées, est-ce qu'il y a un tri qui se fait. On peut présumer que des gens vont effectivement enlever les sacs de plastique. Ce que je veux dire, c'est que je ne pense pas que pour améliorer l'enjeu qui est le compostage des feuilles, mais ça c'est uniquement un exemple, pour ultimement améliorer le problème environnemental, je ne pense pas qu'il faille réformer toutes les valeurs de la société. Parce que pour un simple problème ponctuel qui est la collecte des feuilles, s'il fallait réformer tout le système de valeurs de tous mes voisins, et du mien, parce que alors, je dois avouer que j'ai utilisé un sac de plastique parmi mes 15 sacs de papier, si je devais tout réformer, ça poserait un problème. C'est-à-dire que je pense qu'on pourrait tout de suite rentrer à la maison et oublier complètement cet idéal qu'on a de réduire nos impacts sur l'environnement, parce qu'on ne peut pas imaginer au sein de notre vie humaine changer notre système de valeurs de telle sorte que on va passer à un autre système de valeurs qui nous permette. Alors j'ai espoir qu'à travers une meilleure communication, à travers de meilleurs incitatifs, de meilleures institutions, on puisse amener, développer des pratiques qui nous amènent justement à réduire l'impact sans directement avoir sans réduire notre bien-être, mais en allant vers des nouvelles manières de faire qui nous permettent de réduire les impacts environnementaux. Donc c'est en gros ma perspective. Elle peut prendre deux exemples qui sont bien plus macro et qui à mon avis ont bien plus d'intérêt que cet exemple des feuilles qui est un petit peu complètement anodin. Les subventions agricoles, donc j'ai parlé des engrais azotés, l'agriculture mondiale pose un problème parce qu'on a un changement d'affectation des sols, la déforestation, usage extrêmement élevé d'engrais qui pose des problèmes dont on a mentionné. L'agriculture elle-même est source de gaz à effet de serre, notamment à travers l'élevage animal qu'on a, donc c'est une part importante des émissions de méthane proviennent directement du cheptel bovin que nous avons. Mais tout ça, c'est lié à la structure de nos subventions et du système économique. On subventionne en Occident énormément notre agriculture. Et ça pose des problèmes. Pourtant, ces subventions-là sont en contradiction totale avec notre système économique. Les valeurs de notre système économique, qui sont celles d'une économie de marché, devraient nous amener à dire non, on arrête de subventionner l'agriculture parce qu'il faut que les consommateurs payent le vrai prix de leur consommation. Et on accepte cette contradiction flagrante dans notre agriculture de subventionner une agriculture industrielle qui pose d'énormes problèmes et qui encourage justement la prolifération de grandes surfaces agricoles de monocultures qui ont différents dommages sur la biodiversité, sur l'utilisation d'engrais, et tout ça a un coût. Évidemment, s'il y a des subventions publiques, ça se fait, et n'importe quel économiste pourra vous en faire la démonstration, ça se fait au détriment du bien-être collectif parce qu'il y a plus d'argent. On ferait mieux de donner cet argent-là, des subventions, non pas aux agriculteurs, mais le donner directement aux consommateurs qui, eux, feraient face au vrai prix des aliments, et dans ce cas-là, on aurait globalement un réalignement de la consommation vers une alimentation qui ultimement serait moins axée vers des protéines issues des animaux, mais plus vers des protéines végétales. Et ça serait uniquement en appliquant nos valeurs libérales d'économie de marché dans notre propre système. En énergie, et ça c'est un autre exemple sur lequel je vais un petit peu terminer, On a en électricité, c'est au Québec, on a la chance d'avoir beaucoup d'hydroélectricité, on se la vend à un prix inférieur. C'est un petit peu comme si vos parents avaient une boulangerie et vous disaient les croissants que je produis, je te les vends au coût de production, et sans oublier en oubliant complètement qu'il y a des gens, les clients qui sont prêts à payer comme 3 fois ou 4 fois le prix, le coût de production du croissant. Donc évidemment, le boulanger un jour, il dit à ses enfants, mais arrête de dévaliser ma boutique de croissants parce que je veux les vendre à des vrais clients. Mais au Québec, ce qu'on fait, c'est qu'on se vend hydroélectricité au coût de production, et en fait c'est comme si on dévalisait l'étalage de croissant de nos parents boulangers en surconsommant de l'électricité, et ça nous amène à surconsommer, ça nous empêche d'exporter davantage de l'hydroélectricité qui se substituerait à de l'électricité produite au gaz naturel ou au charbon chez nos voisins. Donc là on a un autre exemple où le Québec pourrait être plus riche à l'intérieur et avoir un impact environnemental plus grand en exportant ces surplus d'électricité issus de la réduction de la consommation québécoise. Et donc, parce que on accepte une situation en fait qui est contraire à nos valeurs, au moins des valeurs dominantes. Que je dis pas que tout le monde partage ces valeurs de marché, mais si on croit qu'on a des valeurs d'économie de marché dans nos sociétés, au Québec on n'applique pas ces valeurs-là. On a un prix réglementé au coût de production. Si on allait un peu plus vers des valeurs de libre marché, on échangerait davantage et ça aurait des impacts à la fois positifs d'un point de vue environnemental et d'un point de vue économique. Il y a des obstacles à la mise en place de ces problèmes, de ces politiques-là. Paradoxalement, le système démocratique dans lequel on est est un obstacle, parce qu'étant donné que tous les 4 ans, il peut y avoir des changements de gouvernement, ça pose un problème dans la confiance qu'on a qu'une politique va perdurer dans l'avenir. Donc on se dit, on a comme un biais automatique à aller vers des politiques axées sur le court terme, parce que on se dit, si dans 4 ans, la CAQ se fait élire, ou dans 2 ans la CAQ se fait élire, tous les beaux systèmes qu'on aura mis en place aujourd'hui risquent d'être balayés. Donc pourquoi est-ce qu'un parti politique se battrait pour mettre en place un système qui à court terme le rendrait impopulaire, parce qu'il crée des changements d'habitude, et peu importe votre habitude, si vous la changez, ça va être perturbateur, même si c'est pour votre bien. Si vous commencez à faire de l'exercice, changez votre habitude pour commencer à faire de l'exercice et représente un coût. Donc il y a des coûts qui sont là. Donc là, le système démocratique est un obstacle paradoxal, et l'autre, évidemment, l'autre obstacle important, c'est cette idée qu'on a dans la préséance du présent sur le futur. C'est évidemment dans le taux d'actualisation que beaucoup d'entreprises utilisent pour l'analyse de projets, mais même que les individus utilisent. On a une fascination pour l'instant présent qui est alimentée par énormément de sources. Et qui nous fait en sorte, qui nous fait souvent privilégier les solutions qui nous font mieux jouir de l'instant présent plutôt que celles qui vont être payantes à l'avenir. Mais si on regardait l'horizon temporel de notre propre vie, en adoptant des habitudes qui sont payantes, qui représentent un coût initial mais qui sont payantes sur l'ensemble de la vie de notre vie, on se retrouverait mieux, mais le coût initial du fait qu'on privilégie l'instant présent représente un obstacle souvent insurmontable. Je m'arrête ici, je vous remercie encore une fois et j'espère que j'ai dit quelques éléments qui contribuent.
C'est bien. Merci beaucoup, monsieur Pinot.